Celui qui bâtit sur le sable, bah c'est celui qui en prend, qui en laisse dans la parole de Dieu, qui prend des petits grains. Mais ce n'est plus le fondement. Il jongle avec l'Écriture, il fait ce qu'il veut, et on aura l'occasion de partager tout cela tout au long de cette matinée. Le Seigneur Jésus a ajouté quelque chose d'intéressant, et on l'a dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 46 à 48. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Creusé profondément. » Et dans le texte original grec, et je me permettrai de le citer beaucoup, parce que le texte original grec nous donne des choses très intéressantes au fur et à mesure. Vous savez bien que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Dans le grec, le mot « creuser, creuser » n'a pas été répété, c'est un autre mot. Jésus dit « Quiconque entend mes paroles et met en pratique est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé et a approfondi. » Donc on va vers les choses profondes de Dieu, on s'y accroche. On comprend que c'est la vérité sur laquelle il faut bâtir sa vie et on s'établit fortement dans le Christ. À creuser, approfondi et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et là encore, comme dans Matthieu, Jésus ajoute au verset 49, « Mais... celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, et le grec dit sur le sol, sans fondement. L'apostasie consiste donc à bâtir sur la terre, donc dans la superficialité, dans la légèreté, dans l'insouciance. Et par ailleurs, il faut le dire, on a l'occasion de souligner cela dans la matinée, mais ce sont les opinions du monde, ses pensées, son style de vie, son langage, ses loisirs, qui gouvernent l'existence d'un croyant apostat. En découvrant le vrai visage de l'apostasie, nous allons mieux, au fil de la matinée, discerner les dangers bien présents, bien réels, qui menacent l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que le cœur du message ce matin, c'est ça. Les dangers qui arrivent de l'extérieur et de l'intérieur et qui menacent l'Église du Seigneur. Il y a une autre image de l'apostasie dans les Écritures. Je lis dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 28, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Et là, il faut avoir référence à l'hébreu, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. L'hébreu dit exactement ceci, « Que tu ne déplaces pas la limite de toujours. » Et j'aime ça. J'aime vraiment cette expression-là. « Ne déplace pas la limite de toujours. » Cette pensée du Seigneur est tellement importante qu'elle est répétée quelques lignes plus loin. Dans le livre des Proverbes, toujours au chapitre 23, verset 10, « Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. » Et vous connaissez votre Bible, vous savez qu'une telle pensée avait déjà été exprimée par Moïse, bien longtemps avant. Dans le Deutéronome, au chapitre 19, verset 14, « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. » Mais vous savez bien qu'il suffit que Dieu parle pour que l'être humain, dans sa nature déchue, aient envie de faire le contraire. C'est la vieille histoire du jardin d'Éden qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Alors, à l'époque de Job, il y avait ce constat, je lis dans le livre de Job, au chapitre 24, verset 2, « On déplace les bornes, on vole des troupeaux. » Et dans l'Écriture, on remarque qu'une malédiction s'attachait à celui qui transgressait cette ordonnance divine. Je lis dans le Deutéronome, chapitre 27, verset 17, excusez-moi de citer beaucoup l'Écriture, mais vous n'êtes pas venu écouter ma parole, mais la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 17, « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. » Je répète parce que je vais insister là-dessus quelques secondes. « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. » Tout le peuple dira Amen. Je vais me mettre à la place du Seigneur quelques secondes, pardonnez-moi. Voilà ce que je vous dis, et ce n'est pas discutable. Je viens devant vous avec ma parole, et votre responsabilité à vous, mon peuple, c'est de dire Amen. Voilà ce que je vous dis, et ce que j'attends de vous, moi le Seigneur, c'est que tout le peuple, à ce que je viens de dire, moi le Seigneur, c'est Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour des nuances par rapport à cet ordre divin. Dieu vient à moi avec sa parole et il me dit, il n'y a pas de place pour arrondir les angles. Il n'y a pas de place pour modifier un peu ma pensée. Il n'y a pas de place pour tes opinions. Ce que tu penses, moi, ça m'indiffère. Je te dis les choses et tout le peuple dira Amen. Il n'y a pas de place pour tes points de vue personnels. Voilà ce que Dieu semble dire dans ce texte du Deutéronome. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Juste une toute petite parenthèse. Ma sécurité et la tienne, dans le temps où nous sommes plus que jamais, c'est de dire Amen à la parole de Dieu et de nous y cramponner. C'est ça, notre sécurité. Alors, je reviens à cette parole des Écritures dans l'Ancien Testament pour parler des bornes, nous comprenons bien qu'une propriété qui avait été acquise était délimitée par des bornes. On en connaissait ainsi les dimensions, on en connaissait la surface exacte, et les générations à venir, les générations suivantes ne devaient pas céder au désir mauvais de changer ces choses, de déplacer ou de reculer les bornes. Si on le faisait, le but était très simple, c'était d'amoindrir le bien du prochain et par conséquent d'augmenter son propre bien. Mais il ne fallait pas y toucher. Dieu avait dit, c'est la limite de toujours, qui a été posé par les ancêtres. Alors, pour la petite histoire, une telle attitude revenait à un vol. Elle pouvait être engendrée par l'égoïsme, l'avarice, l'envie, l'ambition de ceux qui voulaient ajouter, comme dit Ésaïe, maison à maison, champ à champ. C'est une attitude qui pouvait être motivée par l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, tout ce que vous voudrez. Maintenant, si nous appliquons cette parole du Seigneur au domaine de notre vie spirituelle, et je vous demande de bien me suivre à ce moment-là, elle prend une toute autre dimension. Pourquoi ? Parce que Paul me dit dans la première épître qu'il a écrite aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, « Vous êtes le champ de Dieu. » Et il ajoute, vous êtes l'édifice de Dieu. Alors suivez-moi bien parce que la double image est bloquée en quelques courtes paroles ici. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. C'est une double image qui s'inscrit maintenant toutes les deux dans le cadre de notre étude de ce matin. Pourquoi ? en tant que champ. Vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes donc sa propriété. Et le Seigneur a placé des bornes. En tant qu'édifice de Dieu, Dieu a placé des fondements, des fondations. Si je regarde l'œuvre du Seigneur en tant que champ, je me dis, Dieu a certainement établi des bornes. Si je regarde l'œuvre de Dieu en tant qu'édifice, je me dis, Dieu a établi des fondements. Il y a dans l'Écriture, partout, tout au long de ma Bible, des dimensions fixées par le Seigneur. Et il y a pour le peuple de Dieu une responsabilité, c'est de ne pas les modifier. Or, c'est ce que fait et c'est ce que fera effrontément l'apostasie dans les temps de la fin. La nouvelle Jérusalem, dont il nous est parlé dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, elle symbolise l'Église, vous le savez. Il s'agit d'une ville et non pas d'un champ, mais peu importe. La nouvelle Jérusalem a dans l'Apocalypse des dimensions précises. Même si, je vous l'accorde, ces dimensions et ces choses sont symboliques, mais elles ne sont pas écrites pour rien. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 15 à 17, Jean écrit « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or ». Oui, Dieu ne fait jamais les choses à moitié quand il s'agit des choses d'en haut, quand c'est un roseau, c'est en or. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades, pardon, soit environ 2000 kilomètres. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Alors, vous notez également que si la nouvelle Jérusalem a des dimensions précises, ça on peut parler des bornes, elle a aussi des fondements. Là, on ne parle plus du champ, on parle de l'édifice. Apocalypse 21:14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. On revient aux fondements antiques, on revient aux choses établies par les ancêtres. C'est la limite de toujours. Et je vous fais remarquer ici que les fondements de la nouvelle Jérusalem, de la femme de l'agneau, de l'Église finale, la Nouvelle Jérusalem a des fondements qui sont en rapport avec la muraille. C'est la muraille qui a des fondements. Or, la muraille me parle de protection. Et je m'interroge là devant l'Écriture, je m'arrête et je réfléchis. Et je me dis, mais quelle protection va-t-il y avoir dans une vie spirituelle qui apostasie ? Quelle protection va avoir une vie qui n'a plus les fondements de l'Écriture ? Parce que la muraille a les fondements anciens, antiques, apostoliques. Alors je vous le dis et je me le dis parce que je ne suis pas là pour vous donner des leçons, qui suis-je pour ça ? Nous nous mettons tous dans le même panier ce matin, si vous me permettez cette expression. Et je nous dis, ne déplaçons pas ce qui appartient à Dieu. C'est sacré. C'est sacré. Tu n'y touches pas, mon frère. Tu n'y touches pas, ma sœur. Nous sommes sur une terre sainte et il faut nous déchausser. On ne touche pas à la parole de Dieu. On ne touche pas au fondement apostolique. C'est le fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Bornes, fondements qui ont été posés par les ancêtres, les apôtres et les prophètes, selon la parole de Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous comprendrons mieux les dangers qui menacent l'Église de Jésus-Christ. Et vous allez le voir, ils sont de deux sortes, danger extérieur et danger intérieur. C'est ce que nous avons annoncé sur le thème de ce séminaire. Et il faut que nous puissions identifier ces dangers et savoir comment nous en protéger et les vaincre. Alors, dans un premier temps, ce matin, j'aimerais vous parler des dangers extérieurs à l'Église. Et ces dangers nous menacent. Vous allez le découvrir avec moi, les églises du premier siècle ont connu ces problèmes. Il y a eu des influences externes, parce qu'on parle des dangers extérieurs. Il y a eu des influences externes qui ont troublé et qui ont tenté de renverser l'évangile de Christ. Et les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, ont averti non seulement le premier siècle, mais ils ont averti l'Église de tous les temps. Notre génération est en train de vivre ces dangers plus que jamais. Alors là, je vous propose de lire ce que Paul a dit à des responsables d'Église lorsqu'il les a rassemblés. On a ça dans le livre des Actes des Apôtres, si vous pouvez ouvrir votre Bible, au chapitre 20. Quand l'apôtre Paul a fait venir les anciens d'Éphèse, il les a rassemblés à Milet. Il a fait un résumé de son ministère au milieu d'eux, mais il a prophétisé les dangers à venir. Actes chapitre 20, verset 29. Je sais, l'ignorance n'est bonne pour personne. Le texte grec dit « moi, je sais ». Je ne sais pas vous, les anciens d'Éphèse, mais moi, Paul, moi, je sais. Et je vous invite à entrer dans ma connaissance. Et je vous prophétise par le Saint-Esprit pour que vous entriez dans ma connaissance. Et que cette connaissance-là vous amène à prendre les décisions et les positions qui s'imposent. Moi, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. On va venir sur le verset suivant tout à l'heure, mais on parle bien des dangers extérieurs. Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Ça arrive de l'extérieur vers l'intérieur. Un danger qui est caractérisé par l'introduction de loups. Il s'introduira parmi vous des loups. Mais ça, ce sont des gens qui ont une nature complètement étrangère à celle du peuple de Dieu, parce que nous sommes des brebis. Non ? Oh, dormez pas déjà, la journée va être longue. Nous sommes des brebis. Or, le danger va venir de loups, donc de gens qui n'ont pas du tout le caractère de ce que doit être un véritable enfant de Dieu. Des loups cruels, dit Paul. Le grec dit des loups forts, des loups redoutables. Et leur vision, c'est une action destructrice. Jésus nous a avertis du même danger. Matthieu 7, versets 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Alors là, c'est curieux. Je vous demande toute votre attention parce que le Seigneur m'a montré des choses sur ce verset. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Ben oui, parce que comme ce ne sont pas des brebis, pour s'introduire d'une manière maligne au milieu des brebis du Seigneur, il faut qu'ils en aient l'apparence. Donc le loup va se déguiser en brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, dit Jésus. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent pour enlever, voler des choses. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Je ne sais pas vous en Bretagne, mais nous en Normandie, ça n'arrive jamais. On ne cueille pas des raisins sur des épines. Ou des figues sur des chardons. Mais les épines et les chardons, ça me parle, ça. Ça blesse. Ça cause des souffrances, des déchirures. Et ça, c'est le véritable caractère des loups. Alors, ce que le Seigneur m'a montré il y a quelque temps de ça, je me suis dit, mais ils ont affaire à un troupeau. Comment se fait-il que ces hommes-là ne viennent pas en vêtements de berger? Mais non. C'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus efficace de venir en vêtements de brebis parce que ces hommes-là vont agir au niveau de la base. Ils ne vont pas agir au niveau de l'estrade. Ça serait trop visible. Ils vont agir au niveau de la base. Ils vont agir au niveau des chrétiens. Autour des tasses de café, sur Internet, petit coup de fil. Ça se passe là d'une façon maligne dans les rangs des brebis. Ils agissent par la base. Et ils sapent le travail derrière le pasteur par la base. Jésus nous a avertis de ça. Attention, les loups ne viennent pas en vêtements de berger, mais ils viennent en vêtements de brebis. Et c'est au milieu du peuple, par la base, qu'ils agissent pour polluer les choses. Jude, j'ai relu pratiquement tout le Nouveau Testament pour vous faire l'étude, la journée. Ma femme est témoin que j'ai passé des heures dans mon bureau, je l'appelle mon petit laboratoire. L'épître de Jude, verset 4. Il s'est glissé parmi vous, ça arrive donc de l'extérieur. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il s'est glissé, c'est les champions de la glisse, ce sont des surfeurs spirituels. Ils surfent sur la théologie, ils surfent sur la morale, ils glissent. Mais le texte grec est plus intéressant. Le texte grec dit « il s'est infiltré parmi vous ». Ce sont des hommes qui s'infiltrent, ce sont des infiltrés, c'est-à-dire des espions. Et j'ose le dire, va venir le temps où le diable va envoyer des espions de son royaume au sein des églises pour tenter de polluer le peuple de Dieu. Je le répète, le danger arrive de l'extérieur vers l'intérieur. Alors on le voit dans ce qui est dit ici dans Jude, l'impiété. Oh, mais le Seigneur, il n'en demande pas tant, qu'est-ce que c'est, faut prier, mais bon. Travailler, c'est prier. Où est-ce que tu as lu ça dans ta Bible, que travailler, c'est prier, toi? Oh, tu lis un petit verset, l'autre, il regarde son horoscope, qu'est-ce que dit le cancer, vierge, verseau, tout ça. Bah, toi, tu lis un petit verset, comme ça, tu ouvres ta Bible, lentement. Et puis, tu as lu, on est dans la grâce. Ah bon? Il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Dieu est un Dieu de grâce, tu vis un petit peu ta vie comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce, tu pèches, tu demandes pardon, tu pèches, tu demandes pardon, c'est l'essuie-glace, tu vois, tu pèches, tu demandes pardon, tu pèches, tu demandes pardon. Et toute ta vie, tu vis dans la misère. Mais Dieu t'a... Quelqu'un disait un jour, Dieu nous aime comme nous sommes, il nous acceptera comme nous sommes. Mais on n'a pas lu ça dans la Bible. Dieu nous change. La grâce je vais y venir dans quelques secondes. La grâce, ce n'est pas un message pour nous autoriser à pécher allègrement. La grâce, c'est un message de puissance qui change la vie. Alors, je veux bien l'admettre, le point de départ de la grâce, c'est que je viens à Jésus, dans ma misère, dans ma saleté, dans ma souillure, je m'effondre au pied de la croix, je comprends qui je suis, je dis « Seigneur, tu m'as aimé à en mourir, tu as pris ma place dans le châtiment, pardon, 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 sauve-moi !» Et la grâce coule. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je viens dans la lumière de Dieu, je confesse ma souillure, et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Mais à partir de ce moment-là, la grâce qui a été le fleuve qui m'a purifié du passé, c'est une puissance qui va construire mon présent. Et la grâce qui a été comme un fleuve de purification va devenir un instructeur. La grâce va devenir un prédicateur, un enseignant, parce que dans l'épître de Tite, il est dit « la grâce nous enseigne ». La grâce, ce n'est pas cet acte qui a consisté simplement à être purifié et puis après je reste là-dedans dans ma misère. Non, non, non. La grâce, mon frère, la grâce, ma sœur, elle t'enseigne. C'est un véritable prédicateur de la Nouvelle Alliance. Tite dit, enfin Paul dit à Tite, elle nous enseigne à renoncer. Ah bon ? Eh oui. La grâce va t'enseigner des ruptures. La grâce va t'enseigner des séparations. Le message de la grâce est clair dans l'Écriture. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Bien sûr, Dieu est sage, Dieu est intelligent. Nous ne sommes pas appelés à être des Robinson Crusoe, vivant tout seuls sur notre île. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie monastique. Nous sommes appelés à être dans le monde parce que, comme le disait notre frère Robert tout à l'heure, nous avons un rôle à y jouer, c'est de transmettre le message et de conduire les âmes vers Christ, donc il faut bien être au milieu du monde. Mais c'est bien quand le bateau est sur l'océan, mais quand l'océan est dans le bateau, c'est embêtant. Donc nous sommes au milieu du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes appelés à vivre dans le siècle présent, selon la justice, la sagesse, la piété. Donc la grâce, elle va m'enseigner. Vous avez en mémoire ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 1er, je regarde constamment ma montre, parce que quand je prêche, mon adversaire, ce n'est pas le diable, c'est ma montre. Romains 6, verset 1er, verset 15, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là ! Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là ! Et dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, parce que sinon ce serait le reniement de Jésus-Christ qui est venu pour nous faire vivre une vie nouvelle. » Eh bien l'apostasie, les loups qui vont arriver, les infiltrés, les espions, ils vont renier la grâce qui est en Jésus-Christ. Et entre autres, ils diront, mais tu peux vivre comme tu veux, ta vie mondaine. Tu vas dans la boîte de nuit le samedi soir, tu te souilles un peu, puis tu demandes pardon et tu prends la Sainte Cène allègrement le dimanche matin. Mais ce n'est pas ça la vie avec le Seigneur. C'est que je me sépare de la souillure parce que la grâce m'a placé en face d'un Dieu saint qui m'a prédestiné à quelque chose de glorieux, à être semblable à l'image de son Fils. Je reviens à ce que Paul disait, ou à Jude plutôt, il s'est glissé parmi vous. Je vous ai dit qu'il, le texte grec signifiait infiltré. Eh bien, le mot grec signifie aussi, ils se sont introduits par le côté. C'est très, très curieux. Dans Jean chapitre 10, alors que Jésus parle du bon berger, et puis de celui qui n'est pas le bon berger, il dit que le bon berger entre dans la bergerie par la porte. Mais que celui qui n'est pas le berger, il y entre par ailleurs. Eh bien, les apostats, ils vont entrer dans l'église sur le côté. Alors, ils rentreront par la porte, mais vous comprenez ce que je veux dire sur le plan spirituel et moral. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. J'avance encore un peu. J'ai proposé au frère Robert qu'on fasse une petite pause tout à l'heure. Comme la journée va être longue, on va faire une petite pause de 5 minutes dans la matinée. Dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, écoutez bien ça, l'Esprit, le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. On a ici le verbe apostasier. Ils abandonneront la foi pour s'attacher, ça fait peur, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Je vais être simple, j'espère que vous me suivrez. Il s'agit ici de ce que j'appelle ce matin une apostasie théologique. On commence par abandonner la foi, on s'attache à des doctrines. Notez bien ça, on s'attache à des doctrines. Et c'est sous l'impulsion de docteurs, des faux docteurs. Mais on est bien ici dans le domaine de la doctrine. Donc il y a ici une apostasie théologique. C'est un détournement, un rejet d'une partie ou totalité des enseignements originaux et fondamentaux de Jésus et des apôtres. Ils abandonneront la foi. Je l'ai dit, le grec dit « ils apostasieront ». Donc ils vont s'éloigner, ils vont s'écarter, ils vont se séparer, ils vont se détacher, ils vont se retirer, ils vont renoncer à. Ça veut dire tout ça. On a le même verbe en hébreu, chapitre 3, verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Là encore, on a le mot « apostasie » dans le texte original. Connaissez cette parole dans Luc 18, verset 8. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Une question importante. Matthieu chapitre 24, verset 11, Jésus dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Eh bien, je reviens à mon texte de départ et je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je vous conseille de l'être parce que c'est moi qui ai raison. Ah, j'aime bien quand vous réagissez comme ça. Vous savez, je suis un peu provocateur parfois de temps en temps. On pourrait revenir à des choses sérieuses. Je vous dis ceci, des croyants vont abandonner la foi parce qu'ils n'auront pas aimé la vérité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et ils n'auront pas réussi à résister aux tendances pécheresses des derniers jours. Dans Matthieu 24, verset 5 et des versets 10 à 12, Jésus dit « Plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais, Jésus dit au verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Gloire à Dieu. Amen. Celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Par l'hypocrisie de faux docteurs, disait Paul à Timothée. Vous savez ce que c'est qu'un faux docteur ? C'est un docteur, mais il est faux. Le texte grec dit « des menteurs ». Des menteurs. Et là encore, il y a quelque chose d'intéressant. Pendant des années, pardonnez-moi, je dis avec simplicité, pendant des années, je n'ai pas compris cette phrase portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je me dis « qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Qu'est-ce que Paul a à vous dire là ? Des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le grec dit « ayant été marqué au fer rouge ». Alors j'ai fait des recherches, et je n'ai pas été déçu. ils ont été brûlés, ils ont été marqués avec un fer chaud. Parce que, à l'époque, les criminels à qui on appliquait la marque de leur délit étaient marqués au fer chaud. Et ainsi, ils portaient sur eux la marque de leur délit et de leur méfait. On savait qui ils étaient. Eh bien, la conscience de ces faux docteurs qui vont faire du mal aux églises sur le plan théologique devrait être reconnaissable par le chrétien qui vit près de son Seigneur, parce que ces hommes-là, quand on les examine, ils sont marqués au fer chaud dans leur conscience. Et celui qui vit près du Seigneur sent intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces hommes-là ont une conscience cautérisée. Ils portent le sceau indélébile sur leur conscience du mensonge et de la condamnation. Mais il y en a des trucs et des machins aujourd'hui. Il y a quelques jours, 48 heures avant que je vienne au milieu de vous, j'ai vu quelques secondes, parce que ça m'a tellement agacé que j'ai fermé, mais j'ai vu un reportage d'un faux prophète tenant une réunion, je ne sais pas où, devant des milliers de gens. Il suffisait qu'il fasse ça, puis les gens tombaient. Bon, ça tombait. Alors, il y avait le service d'ordre qui était là pour ramasser les gens. Je ne sais pas, le but, c'était peut-être qu'ils tombent, je ne sais pas. C'était une bonne réunion. Ah oui, je suis tombé. Ah bon? Et les gens sont là dans la salle, les bras levés en hystérie. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout vu. Si le Seigneur tarde encore un tout petit peu, on n'a pas tout vu. Et je pense qu'il va falloir vraiment s'accrocher au fondement. S'accrocher, Paul disait dans les Colossiens, fonder, ça c'est l'édifice, enraciner, ça c'est la plante, une double image, fonder et enraciner dans le Christ Jésus. Dans l'Épître aux Galates, il parle des faux frères. Vous savez ce que c'est qu'un frère, un faux frère? Ah oui, maintenant vous savez, hein. C'est un frère, mais il est faux. Des faux frères. Et remarquez comme l'Écriture a la manière de dépeindre ça. Tout à l'heure, on parlait de la glisse. Écoutez bien, des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissé parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Les faux frères, le grec dit des intrus faux frères. On sait que Paul, quand il parle de, il fait le catalogue de ce qu'a été son ministère, il parle dans 2 Corinthiens qu'il a été en péril parmi les faux frères. Il a fallu qu'il s'accroche au Seigneur pour épier la liberté. Le grec dit pour espionner. La même chose. Alors ces hommes essayaient de ramener les Galates au judaïsme. D'ailleurs, ils ont réussi à le faire. C'est pas rien parce que Paul avait établi les églises sur le fondement. Il est parti. Et derrière lui, ces hommes-là sont arrivés sur toute une région. Ça n'a pas été une église locale seulement. Ils ont fait du dégât sur toute une région. Et ils ont ramené les Galates au judaïsme. C'était l'anéantissement de la croix, c'était l'anéantissement de l'œuvre de Jésus. On retournait à l'observation des jours, des mois, des années, des fêtes juives. C'était le reniement de la nouvelle alliance pour ramener les gens à l'esclavage de la loi. Alors, dans l'Épître aux Galates, qui est une épître polémique, vous le savez, puisque Paul défend la doctrine, dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er, versets 6 et 7, Paul dit, je m'étonne, je comprends qu'un serviteur de Dieu, à un moment donné, puisse s'étonner. Parce qu'on croit que les gens sont solides. On dit, non, pas lui. Ouais. En quelques courtes années, c'est impressionnant de voir comme des gens qu'on croyait solides sont retournés comme des crêpes. Et ici en Bretagne, vous comprenez l'image. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Un autre évangile, là je vais me contenter de lire mes notes, parce que si je m'embarque là-dessus, je vous y laisse jusqu'à ce soir. Je me connais. Quel est le véritable évangile ? Paul dit au chapitre 1er de son épître aux Romains, verset 1er et verset 3, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui concerne son Fils. » J'ai mis des années à comprendre ça, même en tant que pasteur. Il a fallu que le Seigneur me bloque un jour dans mon bureau et qu'il m'amène à relire le Nouveau Testament. Et j'étais pasteur. Et je me suis mis à relire le Nouveau Testament pour souligner en rouge, dans ma Bible, tout ce qui concernait Christ. J'ai lu ma Bible comme un fou, comme si je ne l'avais jamais lu. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ma Bible était rouge. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, là ? Alors, je sais que ce que je suis en train de vous dire, ça paraît banal, mais ça n'est pas. Et le Seigneur m'a amené à réfléchir à ce qu'était ma prédication, à ce qu'était ma vie. Et je te dis que si ton évangile, que tu vis, que tu témoignes, que tu prêches, ce n'est pas Christ, ce n'est pas l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la personne de Christ. Je n'en avais pas terminé avec ça. Le Seigneur m'a amené à comprendre ce qu'était la lecture de la Bible. Et comme à l'époque du Christ, le Nouveau Testament n'existait pas, on est bien d'accord. La seule Bible dont Jésus disposait, c'était l'Ancien Testament. Et le Seigneur m'a amené, excusez-moi la parenthèse là, tant pis, le Seigneur m'a amené à réfléchir à la lecture que faisait Jésus de l'Ancien Testament. Eh bien, il dit, Moïse a écrit de moi. Quand au début de son ministère, dans la petite paroisse juive, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, il le déroule, mais il ne va pas parler d'Ésaïe. Il ne va pas parler des nations sur lesquelles Ésaïe a prophétisé. Il trouve l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit, mais ce qui est là en gestation dans l'Ancien Testament, ce qui est en gestation dans la Nouvelle Alliance, c'est arrivé. C'est là, c'est moi. Il dira même, je suis. Exode 3, il est Dieu. Sur le chemin d'Emmaüs, il rencontre les deux disciples dont le moral est à zéro. Qu'est-ce qu'il va faire ? Chanter ? Une comédie musicale ? Qu'est-ce qu'il va faire ? De quoi ils ont besoin ? De la parole de Dieu et de Christ. Alors, bon, on va 11 kilomètres. Hein. Emmaüs, Jérusalem, 11 kilomètres. Tranquille, on va dire 2h30. Il leur fait une étude biblique de 2h30. Et qu'est-ce qu'il fait comme étude biblique ? Il leur explique dans les Écritures, par les prophètes, par Moïse, par les psaumes, ce qui le concerne. C'est-à-dire, en résumé, que la lecture par excellence que Jésus faisait de l'Ancien Testament, c'est d'aller y retrouver ce qui le concernait. Et pour moi, la lecture que nous devons apprendre à faire de l'Ancien Testament, c'est d'y trouver Christ. Il y est, c'est un défi que je vous lance, de la première page jusqu'au chapitre 4 de Malachie. Il est partout. Et ne pas trouver Christ, ou ne pas prêcher Christ à partir de l'Ancien Testament, c'est faire fausse route. Tout est dans la personne de Christ. Il est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, dit Paul aux Colossiens. Ce dont j'ai besoin, c'est de Jésus. Ce dont nos églises ont besoin, c'est de Jésus. nos cultes ont besoin d'être remplis de la personne de Christ. L'Évangile concerne son Fils. Alléluia. Alors, l'autre évangile, c'est l'évangile qui parle de tout sauf de Jésus. Enfin si, on parle de lui, mais c'est un autre Jésus. Le mot y est, mais ce n'est pas le même. C'est pas le même. Je vais vous dire quelque chose. Quand une réunion est terminée et que les gens sortent en disant « Quel pasteur ! Quel orateur !» Ben moi je vous dis, c'est une réunion ratée. Soit le bonhomme il s'est mis en avant et il a tout fait pour, soit les gens n'ont pas compris, mais il s'est passé quelque chose. Une réunion réussie, c'est quand les gens sortent de la réunion en disant « Quel Seigneur on a ! » Quel Jésus on a ! Parce que l'onction, et c'est ça qui est important sur une église, l'onction ne va jamais élever un homme, l'onction n'élèvera jamais un ministère, l'onction élève toujours Christ. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il me glorifiera. L'évangile qui concerne son Fils. Alors juste quelques petits versets, puis on marque la pause. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 1er. Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de Jésus, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné, le mot grec est très fort, qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé. Le grec dit qui vous a jeté un sort. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Le grec dit tourner dans un autre sens, retourner, changer. Galates chapitre 5, versets 7 à 10 et verset 12. Vous couriez bien ? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous ? Notez bien, influence, levain, trouble. Le Seigneur Jésus a dit dans l'une de ses paraboles du royaume, Matthieu 13, 33, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Ce n'est pas positif, hein, c'est franchement négatif ça. C'est l'opposition au royaume de Dieu par la fausse doctrine. Galates chapitre 4, verset 17, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Vous remarquez là la stratégie là. Quand les gens suivent ce genre de faux docteurs, ils ne s'attachent pas plus à Jésus. Les gens sont détachés de nous, et Paul avait le courage de dire ça. Ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux. Mais les gens qui les suivent ne gagneront rien au niveau de Jésus. Rien. Les Corinthiens, et je termine avec ça avant la pause, étaient autrefois confrontés au même danger extérieur qui avait déjà fait des dégâts au milieu d'eux. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 5 et versets 13 à 15. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le mot simplicité ici, c'est le fait de ne pas être double, de ne pas être sur deux fronts en même temps. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence, le texte des Grecs dit ces archi-apôtres, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice. La séduction d'Ève, je termine par ça, ça a été quoi ? Une attaque à la parole de Dieu. Enfin, écoutez-moi, la Bible n'avait qu'un verset à l'époque. Enfin, j'ai promis avec maman, je la mettrai après. La Bible n'avait qu'un verset, un seul. Et Ève n'a pas été capable de le citer comme il faut. Lisez bien votre Bible, vous verrez, elle en a enlevé, elle en a rajouté. Elle n'a pas été capable de citer exactement la parole de Dieu. Une dame est allée trouver un jour un pasteur et lui a dit, pleine de scepticisme, « Écoutez, pasteur, vous croyez vraiment que le serpent a parlé à Ève ?» Et lui, plein de sagesse, il a répondu, « Mais madame, ne croyez-vous pas qu'il parle encore ?» Dieu a-t-il réellement dit ? Des apôtres déguisés. Le grec dit « revêtant une autre forme, transformé ». Je pense que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. J'ai à cœur de vous dire ceci, et on s'arrête un moment. Vous ne serez jamais fort devant le diable en vous appuyant sur vos expériences. Ne pensez pas vous accrocher à vos expériences pour tenir. Ce qui va vous permettre de vous défendre contre le diable, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Jésus a dégainé l'épée de l'esprit dans le désert pour dire à trois reprises, il est écrit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans l'une des trois tentations, ou plutôt dans les trois, le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. À quel moment ça se passe? Juste après le Jourdain et les 40 jours de jeûne. Mais au Jourdain, il s'est passé quelque chose d'inouï. Au moment où Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sous une forme corporelle comme une colombe, et Jésus en tout cas entend la voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé !» C'est une expérience. C'est une expérience. Dans le désert, quand le diable vient lui dire « Si tu es fils de Dieu », Jésus aurait pu dire « Mais j'ai vécu une expérience formidable. Après mon baptême, une voix a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Jésus ne s'est pas appuyé sur une expérience. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il est écrit. Ça, c'est l'arme que le diable redoute. Vos expériences, il s'en moque. Ça ne va pas l'ébranler. Mais ce que Dieu dit, c'est ça ébranle l'enfer. Résistez au diable avec une foi ferme. En quoi ? Dans la parole de Dieu. Et il fuira loin de vous. Alors nous allons, dans la deuxième partie, voir les dangers intérieurs à l'Église et la manière de triompher des dangers extérieurs et des dangers intérieurs. Merci en tout cas de votre attention pour ce matin. Ne partez pas, essayez de m'encourager un peu.